Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à cette rentrée de Cinérama. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez vu plein de films cet été, mais cela, nous n'allons pas parler.
Non.
On va rester dans l'actu de ce mois de septembre. Alors, de quoi on va parler, Marine ?
Alors moi, je vais vous parler du tout nouveau Testament avec Benoît Poulevard, le nouveau film de Jaco Van Dormael, ainsi que de Youth, le nouveau film de Paolo Sorrentino qui sort aujourd'hui.
Et puis toi, Manu, alors, tu n'as pas trop apprécié Dipan ?
Non, pas du tout même, hein, c'est un euphémisme même. Mais bon, il fallait quand même en parler, même si le film est sorti il y a quelque temps, parce qu'il a quand même reçu la Palme d'Or. Et puis je vais vous parler de Cemetery of Splendor, le nouveau film d'Apich Tapong.
Verazetakul. Et puis, eh bien, le Nouveau Testament sera l'occasion de jouer un blind test, puisqu'on aime jouer ici à Cinérama. Et il faudra découvrir eh bien, des titres de films avec Dieu dans le titre. Alors, Dieu au pluriel ou au singulier, vous verrez. Et puis, moi, je vous parlerai d'un film très, très bon, que j'ai vraiment apprécié, Méditerranée A, de Jonas Carpignano. C'est Cinérama qui débute avec Dipan.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Alors, je vais essayer de ne pas trop m'emporter par la colère qui m'a saisi vraiment à la sortie de Dipan. Alors, j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir été un peu dupé, d'avoir assisté à un film assez hypocrite qui véhicule la même idéologie un peu rance et musclée des pires films d'action régaliens des années 80. Alors, sauf qu'ici, le vernis auteur cache habilement les intentions au point d'avoir raflé une palme d'or aux yeux d'un jury bien aveugle. Alors, si le film n'avait pas été couronné de la sorte, je n'aurais jamais été en colère vis-à-vis de ce thriller social, auréolé aussi d'une critique globalement très positive. Alors, pourtant, objectivement, Dipan commence plutôt bien, nous immergeant dans un récit âpre et crédible durant, je dirais, à peu près les 30 premières minutes. Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un soldat tamoul, une jeune femme et une petite fille se font passer donc pour une famille et débarquent en France dans une cité française. Alors Dipan trouve un emploi en tant que gardien et tente de s'intégrer socialement et de construire du coup une famille. Alors tout le début, hein, construit sur une forme de suspense intéressant, visant à faire passer le simulacre pour du vrai, est prenant et assez consistant. Alors évoquant, je dirais, le meilleur du cinéma à tendance sociale, Audiarcé filmait les corps en mouvement, captait les regards, les comédiens non professionnels sont remarquablement dirigés, mais par la suite, il faut bien déchanter, hein, tant le film pour moi se délite et se vide de sa substance première. Alors c'est dès les premiers plans de la cité, on sent que quelque chose cloche. Alors Audiard, dans un désir de cinéma, on va dire coup de poing, voire carrément décomplexé, filme une banlieue en état de siège, cadenassée par des gangs tout droit sortis d'un polar droitier avec Charles Bronson. Mais après tout, pourquoi pas réaliser un film d'action à tendance paranoïaque, à condition d'en assumer pleinement la pérennité et le discours anti-progressiste qui va avec. Mais Audiard, il veut aussi emprunter à la grande forme et à un certain radicalisme du cinéma sérieux, soit prendre un casting d'inconnus, les filmer au plus près de manière réaliste et les faire parler en tamoul. Surtout, en fait, donner l'illusion un peu bêta de réaliser un film anti-commercial. Alors, Dipan, je dirais que c'est une œuvre insidieuse, hein, qui avance un peu masquée, qui tente de nous émouvoir avec un pseudo-discours humaniste sur fond d'histoire d'amour fabriqué. Le fantasme d'une cité organisée en bande comme dans un post-nuke des années 80 ne fait que réactiver un discours sécuritaire dénué de tout ancrage sociologique. Alors Audiard et ses scénaristes ne nous parlent pas de la France actuelle, hein, mais je dirais celle fantasmée parfois du JT de TF1. Alors pour ne froisser personne, la question raciale n'est absolument pas abordée, et encore moins la religion, ce qui reste au fond gênant. Alors la banlieue est juste perçue, je dirais, comme un terrain de jeu dangereux, un lieu anxiogène de règlements de comptes et de trafics divers. Dipan est vraiment victime, on va dire, de sa propre schizophrénie, de son alliance, je dirais, improbable entre le cinéma, on va dire, social, engagé des frères Dardenne et des pires productions de Besson, genre Banlieue 13. La dernière demi-heure démontre néanmoins un savoir-faire réel pour filmer les scènes d'action. Hein. Dipan bascule du côté du vigilant movie et montre le héros partir à la rescousse de son épouse, prisonnière des voyous. C'est pour schématiser, c'était pas tout à fait comme ça. Le spectacle barbare pourrait être jouissif au sein d'un pur divertissement. Ici, le résultat est plutôt déplaisant et incongru. Et que dire surtout, alors je crois que c'est ce qui m'a vraiment enterré le film pour moi, de ce lamentable happy end dont on se demande s'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague. Alors l'Angleterre, vue comme une sorte de paradis des bobos en opposition à la racaille française, laisse quand même un goût amer dans la bouche et s'impose net pour moi là, comme la plus grosse faute de goût de l'année.
Alors, ouais. Alors cette fin, moi, je pense...
Alors, à moins de voir ça comme un rêve...
Oui, oui, oui. Enfin, la lumière oui, change mais... du tout au tout. On a peine à comprendre comment Dipan et sa famille reconstituée pourraient se retrouver dans un
petit... Oui, c'est la plus grande ellipse aussi
oui.
du cinéma.
Voilà, oui.
Oui, mais même en tant que rêve...
J'ai pas cru.
En tant que rêve, pourquoi ? Enfin, ça me paraît... Je ne trouve pas de sens, parce que j'ai pensé, effectivement, à ce que ce soit un rêve, mais pour moi, ça a aucun sens, en fait.
Parce qu'il y a une friction dans cette famille entre Dipan, qui, lui, veut faire son trou en France, enfin, pense que
oui,
c'est ici qu'il va
famille.
Faire quelque chose, et puis sa femme, qui, elle, rêve de l'Angleterre. Et je pense que cette fin, finalement, est quelque chose de relativement fantasmé. Enfin, ça me fait penser à d'autres fins, avec une espèce de filtre... avec une lumière éclatante, alors qu'on ça faisait quand même trois quarts d'heure qu'on était dans la banlieue française avec de la bruine quasiment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est une part de fantasme.
Peut-être.
Voilà, on vient de donner la fin. Enfin,
c'est vrai, on vient de donner la fin. Mais
ça commence bien.
Qui n'a aucune importance.
Je croyais le directement dans le premier cinéma.
Mais je crois que tout le monde, quand j'ai écouté pas mal de critiques, tout le monde donnait un peu la fin en fait de ce film.
Oui.
Parce que je crois que ça a beaucoup interrogé les gens. Même si on le voit comme un fantasme. Mmh. Pourquoi
Moi, je ne
enfin,
la connaissais pas en tout cas. Merci beaucoup. Mmh. Hein.
Elle est très surprenante. Après, la part politique, effectivement, on a l'impression que c'est plus un film politique. Alors, il fait des ellipses. C'est pas la seule hein, ellipse. Hein,
non,
parce qu'il arrive, Dipan, il a ses papiers très facilement. Il y a plein de choses qui se font très très facilement, donc là on est plutôt dans la fiction, mais il a quand même aussi une espèce de... Enfin, il est tellement près des corps, effectivement, qu'on a l'impression que c'est un peu documentaire. Enfin, il y a ce côté-là. Enfin, que,
oui, il y a un côté voilà. documentaire, mais c'est tellement invraisemblable en même temps.
Enfin, moi, et il grossit le trait, hein. Enfin, la banlieue, pour moi, enfin, même ça, j'y crois pas spécialement.
Ah non, elle n'existe enfin. Pas, cette banlieue.
Oui,
c'est impossible.
Elle n'existe
mais
pas.
Ça colle
le
pas.
Le trait est grossi, mais parce que, voilà, il veut confronter une espèce de ce qu'on pourrait appeler, nous, guerre civile, avec ce qu'a vécu ce Dipan, lui, où il y a eu vraiment des morts dans son pays. Enfin, je veux dire, on est là dans deux réalités différentes. Il y a une espèce d'analogie qui se fait.
C'est un peu gros. Je trouve ça un peu grotesque et un peu dangereux en même temps. Parce que c'est vraiment la banlieue telle que, je dirais, des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les banlieues se l'imaginent, d'une certaine manière.
Oui, mais c'est tellement gros que, enfin, je ne sais pas. Bon, après, moi j'avoue que j'ai été un peu gêné en sortant de ce film, même si je le trouve pas réac, enfin, pour autant. Mais oui, il y a une petite gêne quand même, parce qu'on a du mal à le décoder. Enfin, il y a quelque chose qui ne se fait pas aussi facilement que dans les précédents Audiard, je trouve.
Voilà. C'est ce que je dis là. Il avance masqué, ce film. En fait, il est réac, mais...
En tout cas, c'était la Palme d'Or hein, de ce Festival de Cannes. Il est sorti déjà depuis la fin... août, et me semble-t-il, il est encore sur les écrans, Dipan de Jacques Audiard.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et on passe au tout nouveau Testament. Dieu habite à Bruxelles. Il possède un physique très moyen, une personnalité de connard absolu et un Minitel, sans lequel il ne serait pas grand-chose. Au cas où vous en doutiez encore, il s'avère que c'est bien un sadique, un misogyne et surtout un despote. Qui s'ennuie dans sa vie banale et qui s'amuse à faire pleuvoir les pires malheurs sur le monde pour se distraire.
Mon père était arrivé à un certain degré de virtuosité. Depuis, il passait ses journées à inventer les nouvelles lois de l'emmerdement universel.
Faut bien la formuler. Loi 2127, la quantité de sommeil nécessaire est de 10 minutes de plus. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. 2125. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. Loi 2126. On ne casse la vaisselle qu'après l'avoir lavée. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. Loi 2231. Un emmerdement n'arrive jamais seul.
« Voilà donc comment est Dieu. Alors sa femme ne dit pas grand-chose et n'en pense pas plus. Et depuis que le fils prodigue, JC, a quitté la maison pour créer une start-up à succès nommée le christianisme, sa fille, Ea, ne pense qu'à s'enfuir également. Un soir, elle abandonne enfin le domicile familial et décide de réécrire son tout nouveau testament. Pour cela, il lui faudra aller à la rencontre de 6 apôtres choisis au hasard, des éclopés, des obsédés, des tueurs-nés, des délaissés. Chacun va à sa manière écrire une page de ce nouveau testament. Alors le gros problème en fait de ce film, c'est qu'il a été vendu comme une comédie potache centrée sur Benoît Poulvorde, alors qu'il s'apparente davantage à une fable poétique, à un drame doux-amer. En réalité, et on n'en attendait pas moins de la part de Jaco Van Dormael qui a réalisé Mister Nobody, ce nouveau film est bien trop riche pour être mis dans une seule case. Davantage centré sur le personnage de sa fille que sur Dieu, le film est empreint d'une grande mélancolie, une émotion très intense qui vous laisse toujours à la lisière des larmes. D'ailleurs, un aspect de fable un peu gentillette, le tout nouveau testament se montre tendre et cruel, porté par des scènes de poésie pure qui viennent contrebalancer un humour gentiment blasphématoire. Le spectateur doit accepter d'emblée d'abandonner son sens du sarcasme pour se laisser porter par des scènes souvent contemplatives, parfois poseuses, toujours belles mais jamais naïves. C'est parfois un peu trop bien-pensant et d'une façon générale trop long aussi, en particulier à cause des ralentis utilisés à chaque scène, hein, quand même. Mais une cohorte de comédiens plein de grâce porte le film, Catherine Deneuve, Yolande Moreau, François Damien, et donne encore plus de substance à ce conte moderne dont le seul défaut, dans le fond, bah, est quand même de représenter ces nouveaux apôtres comme étant tous blancs et hétéros. Ça, c'est le seul truc qui, après coup, m'a posé un peu problème. Je me suis dit que c'est quand même un petit peu bizarre, quand même. Mais voilà, sinon, c'est en tout cas un film qui vaut vraiment le coup d'œil. C'est encore en salle. Et c'est vraiment à voir, voilà, et ça vaut bien plus que ce que pourrait laisser penser la bande-annonce qui est un petit peu simpliste.
Merci Marine. Et eh bien ce film nous donne l'occasion de jouer à un blind test, le premier de la saison 2015-2016. Alors on aurait pu chercher des films avec le personnage de Dieu dans la fiction, mais c'était pas si évident, donc j'ai préféré choisir les titres de films avec Dieu. C'est à vous de jouer.
Jean-Pierre.
Faut rester. Depuis quand on obéit aux armes ?
Paul, je pense qu'il faut partir. Progressivement.
Célestin ?
Je suis malade, je veux partir.
Luc ?
Partir, c'est mourir. Je reste.
Michel ?
Personne ne m'attend nulle part. Je reste.
Amédée ?
Je ne sais pas encore. Il faut réfléchir et prier ensemble.
Moi, je pense qu'il faut partir.
Et toi, Christian ?
Je suis d'accord avec Amédée. Je trouve qu'il est prématuré de décider.
Et vous, chers auditeurs, qu'auriez-vous fait ? Qu'auriez-vous fait ? Hein ? Si vous étiez moine de Tibérine, donc c'est trouvé.
Des hommes et des dieux. Ça a l'air vachement drôle. Hein.
Oui. Et c'était la bande-annonce. C'était intéressant de la laisser quasiment entière.
Et ça dure 2 heures, hein, sinon le film.
Voilà, donc Xavier Beauvois, film de 2010 qui a été un grand succès du cinéma français. On va retrouver quelque chose de plus léger.
À quoi penses-tu ?
Encore une question pour rien. On ne peut jamais répondre la vérité.
Je t'en croyais capable.
Est-ce qu'il est encore là ?
Antoine. Oui. Ça t'ennuie ?
Je m'en fous.
Belle imitation. Là, il y avait un gros indice encore une fois. C'était Brigitte Bardot,
oui. Donc, c'est Dieu créa la femme de Roger Vadim.
Film de 56, 3 hommes hein, pour une tropézienne. Ça a consacré Brigitte Bardot et puis d'autres acteurs, Trintignant notamment aussi, qui étaient dedans.
Hein ? C'est possible.
Il me semble. On va passer à un autre film. Alors, c'est peut-être un peu moins facile, quoique.
Ce ne sera plus long. Eldorado n'est plus loin.
J'en suis convaincu. Alors plus de vieux canons rouillés. Nous tirerons avec des boulets en or sur nos adversaires. Et toi, Okello, tu me serviras mes festins sur de grands plats en or. Et toutes nos vies seront changées par cette découverte. Nous aurons des fiefs, des provinces, et aussi des femmes. Et on m'accordera peut-être la liberté.
Alors, on est dans une ambiance de forêt amazonienne. Film de Werner Herzog, sorti en 72, avec Klaus Kinski.
Ah, c'est Aguirre, la colère des dieux, oui.
Voilà.
Non, j'aurais pas
de dieux, de dieux, la dieu, colère,
colère de dieux, voilà. Pas des dieux, oui.
Parce que
blasphème.
Parce que dans ce blind test, je vous le rappelle, il s'agit de trouver donc des titres de films avec dieu.
Un seul dieu.
Dedans.
Monothéiste.
Là, il y en a. Et un autre monothéiste pour cet extrait.
Ceci dit, je crois que l'expérience de Cuba est intéressante.
Ah non, mais la Cuba, ça n'a rien à voir. Bah non, parce que là-bas, t'as pas le droit d'être pauvre. C'est-à-dire que t'es obligé de travailler. Mais même en faisant semblant, hein, les gars, là-bas, ils foutent rien. Hein. Ils fument le cigare en goudron dans la route.
Hein. Oui, mais on peut dire qu'ils ont la mortalité infantile la plus basse d'Amérique latine. Et tous les enfants vont à l'école, qui est gratuite. Et je crois qu'il y a un habitant pour 15 médecins. Enfin, un médecin pour 15 habitants.
50 habitants, mais ça, c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte. Mais ils sont dans un état de pauvreté, mais incroyable. Incroyable. Vous savez ce que c'est, les transports en commun là-bas?
Non.
Ça fonctionne avec des bicyclettes.
Ah,
ouais. Non, ils sont extrêmement rationnés.
Mais vous êtes déjà allé à Cuba?
Non.
Voilà, facile.
Eh bien, c'était Dieu seul me voit, de Podalides.
Voilà, film de 97 avec son frère. Et pour terminer, un film français.
Tu veux pas une cigarette?
Non, ça va, j'ai pas envie de fumer. Hein? Non, je veux pas fumer.
C'est bizarre, nous, on est samedi, tu veux pas de cigarette, tu prends pas le bus. Tu veux pas ta petite démenteuse, il y a un truc.
Non.
Tu fais Shabbat, Michel.
Nico, non.
Michel, tu fais Shabbat. À vous, tu fais Shabbat.
Un petit peu.
Un peu Shabbat. Mais ça n'existe pas de faire un peu Shabbat. Tu fais Shabbat, c'est tout. Pourquoi tu fais ça? Tu le fais pour moi, c'est ça?
Mais non.
T'es pas en train de te convertir?
Mais non.
Michel, je sais, j'ai fait pareil à ton âge. J'étais amoureux d'une fille à la fac, alors je la suivais partout avec une énorme pancarte de vaquer. Si tu savais.
Mais c'est pas pareil, parce que moi, ça m'intéresse.
Qu'est-ce qui t'intéresse? Les blagues juives, c'est ce qui t'intéresse, hein? Rabbi Jacob, Louis de Funès, c'est ça, Patrick Bruel, ça t'intéresse, ça?
Mais hein? Oui, Patrick Bruel, Karl Marx, Einstein, Jésus.
Jésus, vous l'avez aussi chez les cathos.
Mais je suis pas juive. Catholique.
T'es pas catholique, t'es quoi? Un jour t'es bouddhiste, un jour t'es catholique, tu me fais chier, Michel.
Bon, ça a été trouvé, Marine.
Donc c'était Dieu est grand, je suis toute petite, avec Audrey Tautou.
Et Edouard Baer.
Un de ses tout premiers, je crois. Un de ses tout premiers films.
Voilà, ainsi s'achève ce blind test. Alors, on aurait pu chercher Dieu seul le sait de John Huston avec Robert Mitchum. Il y avait qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, la comédie à succès de l'année passée.
Les dieux sont tombés sur la tête.
Les dieux, voilà, j'y viens. Il y a Dieu pardonne-moi pas, où Bud Spencer balance des grandes baffes. Il y a les dieux du stade, de Leni Riefenstahl, sublimant les corps d'athlètes. Il y a la comédie de Dieu de João César Montero, où on suit un collectionneur de poils de pubis qui vient de décrocher le Graal parce qu'il vient de recevoir celui de la reine d'Angleterre. Et puis, tous ces films avaient donc en commun d'avoir Dieu dans le titre. Prochain blind test dans une prochaine émission.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et nous allons parler de Méditerranéa de Jonas Carpignano. Alors, il y a des films qui arrivent au bon moment parce qu'ils témoignent d'un des aspects de notre monde, parce que l'actualité leur donne un éclairage particulier. Et bien, c'est le cas de ce film, un premier film très prometteur. Alors, j'avoue avoir été intrigué par ce film après avoir vu Hope de Boris Lochkine en janvier dernier, qui racontait la traversée de l'Afrique par des migrants d'Afrique noire jusqu'à Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc. C'était une fiction très bien documentée, tournée avec des non-comédiens sur le parcours des migrants et qui s'élevait ensuite vers une histoire d'amour. Pour Méditerranéa, on trouve le même souci documentaire sur ce qu'est la traversée du désert, les villes de passage où il faut se refaire de l'argent, le désert où rôdent les pilleurs, la fameuse traversée en bateau, c'est un canot, et puis l'arrivée dans les centres dédiés aux immigrés. Alors nous sommes partis du Burkina Faso avec Aïva et le jeune Abbas, et puis nous sommes parvenus en moins de 20 minutes en Italie pour s'arrêter dans un camp de fortune où vit la communauté de migrants à Rosarno. C'est une petite ville de Calabre où se sont déroulés des affrontements en 2008 et 2010 entre immigrés africains et jeunes italiens. Les immigrés s'étaient rebellés à la suite de la mort de deux d'entre eux, tués au fusil. Alors c'est pour cette raison que Jonas Carpignano, qui habite le coin, nous envoie là-bas. Le rapport qu'entretiennent ces immigrés embauchés comme ouvriers agricoles et la population est un élément rythmique et dramatique du film. Et par petites touches, eh bien, le réalisateur nous laisse entrevoir la menace qui pèse sur ceux qui travaillent comme les autres, mais pour beaucoup moins d'argent et qui vivent dans des gourbis. Ce qui rassure quand on regarde Méditerranée, c'est l'absence de misérabilisme. Bien que son regard ne soit pas strictement documentaire, la mise en scène s'emploie à nous immerger au plus près de ce que peuvent vivre ces hommes et femmes. Alors quand ils arrivent en ville, Aïva et Abbas revoient ceux qui étaient partis du village bien avant eux. On voit l'entraide, la débrouille, le secours aussi des associations et puis les premiers boulots. Le réalisateur ne fait pas l'économie des moments où les sans-papiers se retrouvent pour le coup sans argent et peuvent prendre le chemin du vol pour mieux s'en passer de l'argent. Ce que montre Méditerranée, ce sont aussi deux parcours, deux sensibilités de l'immigration. Alors d'un côté, il y a Aïva qui veut du travail, qui fait tout pour multiplier les boulots et se retrouve proche de la population. Il est très lié au patron qu'il emploie. Et puis de l'autre, il y a son ami Abbas qui voit dans ce travail à l'orangerie l'expression de l'esclavage moderne. Jonas Carpignano offre aussi différents miroirs à cette immigration économique. Il y a la fille du patron qui bouge sur les mêmes musiques que la fille d'Avilla, qui est restée au pays. Donc c'est Rihanna qui est le symbole de cette culture mondialisée. Et puis il y a aussi le patron de l'orangerie qui rappelle que l'Italie a été une nation de migrants. Et puis il y a aussi beaucoup d'éléments dispersés ici et là. Alors même si le film aurait gagné à être raccourci, il est tout de même prenant. Car au-delà des séquences documentaires, la fiction est bien présente et la mise en scène nous éloigne du naturalisme. La tension est présente tout du long, la menace pour ces hommes et femmes n'est jamais la même et Jonas Carpignano sait y faire quand il s'agit de filmer un état, une interrogation, un espoir, une résignation, une lutte. Il manquait sans doute un peu d'argent pour que ce film soit vraiment une totale réussite. En tout cas, il a participé à la semaine de la critique à Cannes et voici quelques éléments de musique. Alors il y en a un qui est facile à trouver, c'est celui-ci. Parce qu'effectivement, on est en Italie. Et puis, il y en a un autre, c'est le fameux Rihanna. Voilà, on n'a pas le temps. Faites la suite de la chanson. Donc c'est Méditerranée de Jonas Carpignano. C'est un très bon film sur les écrans.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors si je tenais à voir Cemetery of Splendor, c'était au moins pour relever un défi. Alors non pas celui de ne pas dormir pendant 2 heures, encore moins celui de me livrer une réflexion profonde sur les tenants et aboutissants d'un objet filmique parfaitement abscon pour le spectateur néophyte. Non, le désir primaire était motivé par la gageure de prononcer correctement le nom du réalisateur à l'antenne. Je vais me lancer, oui, je me lance. Happy Chatpong, ouais, rasé ta cool. Bon, pour la suite de la chronique, on s'entendra au seul Happy Chatpong ou par facilité par Happy Chat, simplement. Je dois aussi avouer qu'il s'agit du premier film du Thaïlandais que j'ai le loisir de visionner. Tropical Malady et le palmé Oncle Bunmi prennent tranquillement la poussière sur mes étagères. Alors, assister à la projection de Cemetery of Splendor est une expérience quand même étrange. Une plongée en apnée au cœur d'un univers de songes qui réussit l'exploit de vous contaminer. Au bout de 15 minutes, alors que j'étais en forme, je me suis mis à bâiller. Et je ne dis pas ça pour faire de l'humour. Par ailleurs, j'avoue, je n'ai pas compris grand-chose en dehors des grandes lignes. Mais au fond, c'est si important. Alors peut-être à en lire la presse, absolument en extase, les critiques réussissent l'exploit de vous faire passer pour un idiot inculte incapable de décrypter correctement une image ou une idée d'un film apparemment plus limpide que les précédents. Enfin, quand je dis vous, c'est moi. Mais peu importe, on peut se laisser bercer par l'univers étrange d'Happy Chatpong à l'image du morceau électro-cotonneux de DJ Soulscape que l'on va écouter pour retrouver la sérénité. Alors le postulat de départ est intrigant, des militaires sont atteints d'une étrange maladie du sommeil pour une raison inconnue. Ils végètent dans un hôpital de campagne en attendant de trouver un remède. Alors Jen se porte volontaire pour s'occuper d'un jeune soldat et se lie d'amitié avec Kang, une jolie médium qui a refusé de travailler avec le FBI, détail assez comique, pour se consacrer à sa mission première, communiquer avec les soldats. Alors énoncé comme ça, Cemetery of Splendor peut paraître simple et évoluer dans la même sphère troupe que certains films de Kiyo de Kiyoshi Kurosawa, porté sur l'insolite, les rêves et la somnolence. Happy Chat Pong semble s'intéresser au point de rencontre entre les morts et les vivants dans une dimension inconnue, ausculter l'invisible et tenter de plonger le spectateur en état d'hypnose. En ce qui me concerne, la léthargie m'a dangereusement happé et ce que je viens de dire plus haut pour faire le malin, c'est-à-dire tenter de décrypter une œuvre un peu hors norme, ne m'est venu que 2 ou 3 jours après. Sur le coup, je suis sorti dubitatif, persuadé d'avoir vu quelque chose d'important tout en n'ayant strictement rien compris et assisté médusé à une succession de plans fixes souvent très beaux et très 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 longs. Certains durent 1 minute 30 au compteur. Alors réalisé par un poseur, ce film pourrait être insupportable de prétention et d'autosuffisance. Or, la modestie l'emporte. La lenteur extrême n'est pas si désagréable. Cela permet de réfléchir à autre chose, de s'évader, de somnoler, de regarder le plafond aussi. Hein. Cette plongée dans l'inconscient des individus, leur état transitoire entre la vie et la mort, distille un ennui, paradoxalement, pas si déplaisant que ça. La notion de durée semble beaucoup préoccuper le cinéaste. On prend le temps d'admirer des plans qui n'ont en revanche rien de frappant sur le coup et ne portent aucunement la signature définitive d'un super auteur. C'est un peu l'opposé de ces gros films où chaque plan doit être admiré. C'est-à-dire que l'intérêt du plan vient le lendemain, voire 2 jours après. C'est assez curieux. Non, mais c'est vrai. C'est la jolie forme du film nous frappe après, voilà. Et après une bonne nuit de sommeil, je pense. Non, mais c'est un film très curieux.
Voilà, eh bien, tu as nommé Aki Kurosawa et Happy Chapong, Where is it a cool, dans la même...
Kiyoshi.
Kiyoshi.
Attention à ce que tu
Kiyoshi.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors attention, contrairement à ce que pourrait laisser présager le titre Youth, c'est-à-dire jeunesse en français, cette histoire se déroule dans une maison de retraite. Un havre de paix luxueux au pied des Alpes où se reposent 2 octogénaires amis de longue date. Autour d'eux, quelques fantômes, un jeune acteur, Diego Maradona et même Miss Univers. Les 2 amis ont une approche assez différente de la retraite. Fred Ballinger, interprété par Michael Caine, est un chef d'orchestre illustre qui ne veut plus exercer pendant que Mick Boyle, joué par Harvey Keitel, mobilise toutes ses forces pour écrire un dernier film qui veut laisser comme son testament. Alors le thème de la vieillesse se déclinait jusqu'à présent au cinéma soit sur le mode comique, ce qui a donné lieu ces dernières années à de nombreuses comédies pour sexagénaires assez pénibles, soit sur le mode dramatique comme dans Amour de Haneke où l'on s'euthanasiait en couple. Dans Youth, enfin, on aborde le déclin et la fin de vie avec une certaine fraîcheur sur un mode onirique, pour le moins inédit. Malgré quelques inévitables réflexions sur la vieillesse et les problèmes de prostate, tout réalisme est soigneusement évité pour brouiller les frontières entre rêve et réalité. Après Il Divo, son premier film très rococo, après l'échappée américaine de This Must Be a Place et le retour en beauté de la Bella Reghezza couronnée par l'Oscar du film étranger, Sorrentino signe ici un film réussi qui impose véritablement son style. Son style qui tend vers le baroque, qui est aussi entre le rire et les larmes et qui ne connaît pas la demi-mesure en ce qui concerne les effets visuels. On retrouve plus que jamais son amour de la symétrie, ses plans cadrés avec une minutie obsessionnelle qui rendrait jaloux Wes Anderson, ses personnages secondaires hauts en couleur et ses tableaux fantasmagoriques. C'est donc un nouveau film très réussi, chargé de moments de grâce, un vrai plaisir de cinéma et en bonus, vous avez même une apparition de Jane Fonda à la fin qui est très réussie. Je vous le conseille.
C'est pas elle qui arrive. Non, c'est pas Jane Fonda qui arrive.
C'est pas
dans
elle
le
qu'on voit sur cette affiche qui est d'ailleurs assez racoleuse. Oui, je pense que l'affiche ne donne pas une très bonne image du film, en fait.
Effectivement, parce qu'on...
Non, donc ce n'est pas elle qui vient toute fesse au vent se baigner dans le jacuzzi.
Qui est censée être Miss Univers, hein, c'est ça ?
C'est ça, c'est Miss Univers.
Ouais.
Et le premier film de Sorrentino, c'est L'ami de la famille, en fait. Ça a été réalisé avant Il Divo.
D'accord, voilà. Merci Manu, d'accord.
Je fais mon malin.
J'ai tort, très bien, d'accord, très bien. On en parlera après.
Petite précision, donc c'est Youf, sorti le 9 septembre sur les écrans.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu. Sinon moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou.
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève cette première émission de Cinérama. La semaine prochaine, on écoutera une interview, celle de l'actrice de Much Love, film de Nabil Ayouch. Et puis...
Et voilà.
Ce sera tout. Non, il y aura autre chose. On aura vu des films. La semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.